BPM 102.1. Il est 19h.
Bonsoir et bienvenue dans cette série d'émissions consacrée aux élections cantonales et municipales 2008 à Mantes-la-Jolie. Tous les soirs jusqu'à jeudi, de 19h à 20h, nous avons invité tous les candidats tête de liste à ces deux élections. Ils disposent chacun de 20 minutes au cours desquelles ils pourront présenter leurs projets et leurs idées. Je précise enfin que ces interventions seront rediffusées la semaine prochaine aux mêmes heures. Et pour commencer ce soir, nous recevons M. Marc Jamet, qui est candidat aux élections municipales, mais aussi aux élections cantonales. C'est pourquoi vous l'entendrez deux fois 20 minutes. Nous allons donc commencer sans plus attendre cette première séquence qui sera consacrée aux élections municipales. Monsieur Jamet, bonsoir.
Bonsoir et merci de m'avoir invité.
Alors vous êtes conseiller municipal sortant et candidat à ces élections municipales, pourquoi ?
Pourquoi ? Ben je crois, enfin, très très rapidement, parce que je pense qu'on aura le temps d'y revenir. La droite a fait beaucoup de mal en 13 ans de pouvoir ici. Je suis candidat pour battre la droite pour changer dans les deux termes qui sont pour moi indissociables.
Alors, si au soir du 9 mars ou du 16 mars, votre liste remporte cette élection, quelle serait alors votre première décision comme nouveau maire ?
Alors, la première décision comme nouveau maire, c'est forcément une décision qu'on peut prendre très rapidement. Vous verrez, on aura l'occasion d'en discuter, qu'on a un programme assez vaste. Je crois que s'il y avait une décision à prendre lors de ce premier conseil municipal, c'est de voter la rouverture de l'école Paul Bert avec tout de suite la révision partielle de la carte des périmètres scolaires afin qu'on puisse rouvrir au moins en partie l'école Paul Bert dès la rentrée de septembre.
Donc ça, c'est vraiment votre priorité ?
C'est une des priorités, disons, possible à faire immédiatement dès le premier conseil municipal. Je crois d'ailleurs que ça a été un des éléments qui a été beaucoup débattu à gauche, puisque nous n'étions pas d'accord sur un certain nombre de propositions. Mais je crois qu'on ne peut pas, toute la gauche s'est battue contre la fermeture de l'école Paul Bert, on ne peut pas, avant même d'être arrivé au pouvoir, dire on ne le fera plus. Moi, je suis pour tenir ses paroles, on s'est battu contre, on rouvrira cette école.
Très bien. Alors, lorsque cet instant des premières mesures sera passé, ce sera le temps de s'inscrire dans la durée et de mettre en œuvre votre programme pour la ville de Mantes-la-Jolie. Oui. Alors justement, pourriez-vous maintenant nous en dire davantage sur celui-ci, en nous précisant vos priorités et nous expliquer ce qui concrètement pourrait changer pour les Mantais ?
D'accord, bah écoutez, je vais essayer de m'y exercer.
On va essayer de faire quelque chose de clair, que oui, tout le monde comprenne, voilà.
Alors, sans vous renvoyer, vous et vos auditeurs, vers le programme qu'on a imprimé à 25 000 exemplaires et qui commence à être distribué à Mantes, hein, qui sera sans doute, qui est beaucoup plus complet, je vais m'en tenir un peu aux grands axes. Je dirais que de tous les contacts qu'on a pu avoir à Mantes, ce qui frappe le plus les habitants, c'est le mépris dans lequel on les a tenus, d'où très naturellement notre programme fait une place large à la démocratie, à la citoyenneté. Je dirais avec deux mesures phares. Je dirais on va mettre en place une maison du droit et de la citoyenneté. Maison du droit et de la citoyenneté, qui ne sera pas quelque chose qui va ni remplacer le tribunal d'instance ni le tribunal des prud'hommes, mais quelque chose qui, une structure qui va aider les gens justement à pouvoir rester en justice, qui va aider, par exemple, vous souhaitez monter une amicale de locataires, et ben on va vous donner les éléments pour le faire, vous allez pouvoir trouver des élus en permanence, etc. L'idée, c'est justement de favoriser cette démocratie, de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on arrête d'en parler, mais qu'on la mette en œuvre concrètement.
Donc un lieu de médiation et de conseil, c'est bien ça ?
Un lieu de conseil surtout, un lieu de conseil, c'est-à-dire on a quelques droits quand même arrachés de haute lutte, simplement dans la plupart des cas on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Moi je vois des tas de gens qui sont complètement perdus vis-à-vis d'un contentieux ou d'un autre contentieux qui ne savent pas comment pouvoir justement réagir contre ces éléments-là. Je crois que cette maison du droit et la citoyenneté, c'est faire respecter les droits et la citoyenneté pour tout le monde. L'autre élément qui me semble important, c'est de mettre en œuvre des référendums d'initiative locale. Vous savez que la loi l'autorise, c'est 10% des électeurs inscrits ou le conseil municipal sur proposition du bureau municipal qui le décide. Je propose que ce référendum d'initiative locale soit élargi à tous les Mantais, qu'ils soient électeurs ou non, et que s'il y en a que 10%, forcément, ça ne sera pas légal. Donc le conseil municipal le décidera, je pense, pour tout ce qui va être des sujets d'intérêt important.
Par exemple
Le plan local d'urbanisme, par exemple. On a eu 3 moutures dernièrement. On ne fait les réunions que le minimum légal, c'est-à-dire avec le minimum d'informations légales, etc. Le plan local d'urbanisme, c'est assez important pour qu'on puisse avoir effectivement un référendum pour approuver ou pas ce que va proposer la municipalité. C'est dans notre programme. De remettre en chantier ce plan local d'urbanisme. Et qui dit référendum, c'est pas uniquement le vote, qui dit référendum, c'est aussi débat. Débat avant, c'est-à-dire. Et ça fait aussi partie de notre programme. On fera pas ce que nous a fait la droite dans ce mandat. Nous, on veut respecter les droits de l'opposition. L'opposition, elle aura le droit à la parole, elle aura des moyens pour parler. Et dans ce cadre de référendum, elle aura aussi des moyens pour pouvoir avancer ses arguments. Je crois qu'il faut pas avoir peur de l'échange des arguments.
Alors, toucher au plan local d'urbanisme, au PLU, ça veut dire directement, ça a un impact sur le logement. Justement, quelle politique en matière de logement ?
Alors, c'est politique en matière du logement. Je crois qu'il faut regarder un petit peu ce qui s'est fait. Pour aller vite, on a engagé une politique drastique de destruction des logements sociaux. On est maintenant à plus de 1000 logements sociaux détruits sur le Val-Fouré, qui a engrangé une crise qu'on n'a jamais connue dans le Mantois, à la fois de manque de logements, mais aussi de ce que j'appellerais de densification du centre-ville, de Cassicourt, puisqu'on a remplacé ces logements publics par des logements privés, et qui provoquent toute une série de plus que de désagréments, mais de casse environnementale et de casse du cadre de vie des gens. Il faut savoir que, y compris au centre-ville ou au Cassicourt, il y a des gens qui ont investi, qui ont investi beaucoup d'années pour pouvoir acquérir leur maison, qui pensaient y vivre tranquillement, et qui brusquement se retrouvent avec des immeubles qui se construisent, etc. On en parlait tout à l'heure, je vous renvoie un peu la rue Marceau, où dans un mouchoir de poche, on s'apprêtait à construire un immeuble de 4 étages avec une sortie en parking souterrain dans une rue qui fait moins d'un mètre de large. C'est complètement scandaleux. Logement aussi, c'est la crise du logement, c'est-à-dire qu'à Mantes, on ne peut plus se loger. Il n'y a plus un jeune maintenant qui... Moi, quand je suis sorti du domicile familial, je suis allé à la Tour Vega comme beaucoup de jeunes, c'est des F2, des F3, pour après repartir ailleurs. La crise est telle maintenant que la population est captive au Val-Fouré complètement, que ça provoque un vieillissement de la population. On en parlera peut-être avec des fermetures d'écoles, voire de collèges. Et l'autre élément sur le logement, et là on mène une lutte depuis maintenant plusieurs années, c'est les marchands de sommeil. On a toute une série de personnes sans scrupules qui sont en train de profiter de la misère des autres. Et là, je pense qu'il y a besoin d'une politique qui mette un terme à ça. Alors, pas forcément de construction de logements sociaux en tant que tel, en plus, parce que je pense qu'il faut arrêter de densifier la ville. Par contre, transformation du logement existant en logement social, oui, ça c'est possible. Ça passe par des surcharges foncières, ça passe la mixité sociale tant avancée pendant son temps par Pierre Bédier, il faut la mettre en œuvre au centre-ville, à Gassicourt et ailleurs. Et un logement social, c'est pas un logement dégradé, c'est un logement accessible à tout le monde financièrement, c'est surtout une question de moyens. Je vous renvoie aussi aux logements sociaux qui existent rue Milzola, c'est des petits pavillons, des petits jardins, c'est du logement social. Et je souhaite qu'il y en ait plus que ça à Mantes.
Alors, dans les attributions du maire, il y a les écoles primaires. Quelles sont vos propositions ? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la réouverture de l'école Paul Bert. Oui. J'imagine que ça ne va pas s'arrêter à cela.
Non, la réouverture de l'école Paul Bert, négociation, on en reparlera sans doute tout à l'heure avec le conseil général pour l'école maternelle Les Iris, bien évidemment, réouverture de l'école Marie Curie. Il est évident aussi qu'on va s'opposer à la fermeture du collège André Chenier, qui est pratiquement annoncé par Pierre Bédier. Et d'une manière générale, je crois qu'il faut maintenir un réseau d'écoles de proximité, de petite taille, à taille humaine, qui permettent aux enfants d'avoir une scolarité normale, avec une baisse des effectifs par classe. Mais je vous dis, tout ça, c'est aussi lié au logement, parce que la crise du logement qui provoque aussi le vieillissement de la population, c'est pas que brusquement les Mantais vieillissent, c'est que les enfants partent ailleurs. Donc au bout d'un moment, les écoles finissent, les classes finissent, commencent à se vider, et les écoles, au bout d'un moment, on finit par les fermer. Alors d'autant plus quand on a une politique municipale qui, au lieu de se battre contre les fermetures de classes, demande à l'inspection académique de regrouper les classes que l'inspection académique veut fermer dans la même école afin de pouvoir la déclasser et pour pouvoir après produire un autre type de construction privée. Il faut savoir aussi que quand vous construisez une école, vous avez des subventions. Quand vous avez une école déjà en place, vous n'avez plus de subventions pour l'entretenir et qu'en fait, il y a aussi là un petit jeu de fuite en avant. On construit une nouvelle école Uderzo, on en ferme une à Paulbert et on gagne des subventions. C'est un jeu pour le moins bizarre et en tout cas qui s'oppose et qui s'oppose aux intérêts des Montais, quoi.
Le soutien scolaire, vous y êtes favorable ?
Oui, tout à fait favorable au soutien scolaire. Je crois qu'il faut que ça se passe dans les règles de la laïcité. Et notamment de regarder aussi tout l'ensemble des conventions qu'on peut passer ou l'ensemble des accords qu'on peut passer avec les enseignants qui, à mon avis, sont quand même les mieux placés pour pratiquer ce soutien scolaire.
Alors, on a parlé du logement, on a parlé de l'école, de la jeunesse, enfin, que de l'école, pas encore complètement de la jeunesse, mais le tissu économique local est également important, puisque c'est finalement grâce au métier que vous avez et que vous pouvez vous loger. Qu'est-ce que vous feriez, vous, comme maire, pour améliorer ce tissu économique local ?
Alors, d'une part, je crois qu'il faut s'opposer, il faut en tout cas maintenir l'emploi existant, mais notamment l'emploi industriel. Alors, évidemment, je pense à Danlo Pilot, qui est menacé en ce moment de déménagement. C'est la troisième entreprise de Mantes-la-Jolie, hein, 500 emplois sur Danlo Pilot. La première, c'est l'hôpital. La deuxième, c'est la municipalité. La troisième, c'est Danlo Pilot. Je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de casser l'emploi industriel. D'ailleurs, ça pose des problèmes ça pose aussi des problèmes de transport. Vous avez maintenant, je ne sais plus, ça doit être 10 ou 12 000 Mantais qui prennent le train tous les jours pour aller travailler à Paris. Ce n'est pas une situation enviable. Alors on nous dit qu'on a remplacé les emplois par des emplois de service. Il faut savoir aussi que ça s'accompagne par une précarité énorme. Du temps réduit imposé pour l'ensemble des salariés et une multiplication des contrats bidons, des stages précaires, etc. Je crois que là, il faut vraiment à la fois se battre contre cette désindustrialisation de la région et en même temps trouver d'autres solutions. Par exemple, on propose un service municipal ou intercommunal de l'emploi. Il faut savoir que d'ici 5 ans, on va avoir 600 000 salariés qui vont partir en retraite par année, pendant 5 ans. En France, ça représente à peu près 400 emplois rapportés à Mantes-la-Jolie. Ces 400 emplois, on peut, avec un service de l'emploi et avec une action municipale un peu forte, c'est-à-dire recenser les départs en retraite et agir. On ne fera pas le boulot des syndicats. Par contre, on peut les aider. On peut agir en disant, ces emplois-là, il ne faut pas les casser, il faut les garder. Et nous, en échange de quoi, on va mettre en place des processus de formation qualifiante pour pouvoir justement prendre des jeunes Mantais et pouvoir remplacer ces emplois qui seraient supprimés sans cela, au syndicat après de se battre pour que l'entreprise continue à avancer sur leurs conditions de travail, mais aussi sur l'embauche. Je pense aussi à la titularisation des employés communaux, où là, visiblement, on a quelques avancées au moment des élections, comme par hasard, parce que la droite, ça fait 3 ans.
Il y a eu un grand débat, là, au dernier conseil municipal.
Oui, il y a eu un grand débat au dernier conseil municipal. Moi, je suis pour la titularisation, un processus de titularisation, parce que, bien évidemment, on ne va pas titulariser 600 employés communaux qui ne sont pas actuellement. C'est un chiffre qu'ils m'ont contesté pendant 4-5 ans. M. Vialet, il vient de recevoir les directeurs d'école et il leur dit qu'ils vont engager un processus de titularisation des employés communaux. Il reconnaît lui-même qu'il y en a 600. Je crois que c'est à la fois bon, évidemment, pour les employés, puisqu'on n'a plus à travailler en ayant la peur d'être licencié du jour au lendemain, mais c'est aussi bon pour les Mantais, parce que la compétence, ça ne s'acquiert pas en 3 mois, ça ne s'acquiert pas en 6 mois, et qu'on a besoin aussi d'un cursus professionnel. On peut très bien démarrer en balayant les rues et terminer en cadre à la mairie de Mantes-la-Jolie. Ça veut dire effectivement un processus de formation qualifiante assorti avec l'emploi. Je crois que ça, il faut vraiment y travailler, et que ça ne fera pas tout. Mais ça, on s'engagera un petit peu dans cette voie-là, c'est tout à fait possible, et simplement il faut avoir la volonté politique de le mettre en œuvre, nous l'avons.
Alors je vous propose maintenant d'aborder le volet social de votre programme pour ces municipales, notamment envers les personnes âgées. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la France vieillit, notamment, vous le disiez tout à l'heure, les gens vieillissent, du coup les gens restent à Mantes-la-Jolie, vont avoir besoin de plus en plus de services, parce que par ailleurs l'espérance de vie augmente, donc on va avoir affaire à des personnes dépendantes, des personnes aussi malheureusement handicapées. Quelle politique donc en matière de social?
Ben, je crois que c'est une vraie question. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a réservé une place assez importante dans notre programme. Je crois que la canicule de 2003 a mis un peu ça en évidence. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de considérer l'allongement de la durée de la vie, soit comme un coût qu'il faudrait réduire, soit au contraire comme une formidable richesse. Moi, je crois que c'est une formidable richesse. On vit de plus longtemps, on vit mieux plus longtemps, et en même temps, effectivement, ça va poser un ensemble de problèmes. Ça demande des accompagnements. Quand on voit ce qu'a fait la droite à Mantes-la-Jolie, pour vous citer tout, mais enfin, Fleming, Arepa, c'est la casse de résidences de personnes âgées. Donc, d'une part, il y a ça, il faut réagir là-dessus. Quand vous regardez l'état de la résidence de personnes âgées Henri Cléris, il y a besoin de réhabilitation, de remise en norme sur l'existant. Il y a sans doute besoin de regarder effectivement les besoins des personnes âgées en termes d'hébergement en résidence de personnes âgées, mais ça, on verra une fois qu'on y sera. Mais il y a vraiment ce souci-là. Mais ce n'est pas l'unique souci. Je veux dire, je crois qu'il faut aussi agir, notamment pour le maintien à domicile. Ça a l'air idiot comme ça, mais le maintien à domicile, ça veut dire qu'on agisse aussi sur les logements, sur l'accès au logement, l'accessibilité. Ça veut dire aussi qu'on agisse sur les transports. Et il ne s'agit pas de proposer aux personnes âgées des transports gratuits, mais aussi des transports adaptés, notamment Place Assise. Ça existait il y a quelque temps avec la Camille de manière très très chère. Je crois que ça, il faut remettre en place un réseau diversifié.
Du transport individualisé
ou en petit minibus, avec des places assises qui permettent aux personnes âgées justement de pouvoir se déplacer. Je pense aussi qu'il faut... réfléchir à une meilleure intégration dans la vie associative. Ils le font déjà beaucoup. Je veux dire, faut savoir qu'actuellement, je crois que plus de 50% des associations seraient incapables de fonctionner s'ils n'avaient pas des retraités, et même des partis politiques. Parce que on a un peu plus de temps, et la retraite, c'est pas la fin de la vie, au contraire, c'est une nouvelle vie qui commence de plus en plus. C'est pour ça que je suis contre l'allongement des départs en retraite. Au contraire, gardons toute cette période de vie pour faire œuvre utile, sociale, et je crois que la municipalité, mais pas que Mantes-la-Jolie d'ailleurs, toutes les municipalités vont être confrontées à ce type de problème. Ça va nous renvoyer après sans doute sur le conseil général, puisque l'action sociale, c'est aussi une de ses compétences essentiel.
Alors abordons maintenant le volet sécurité. Quelles mesures d'abord, quel est votre regard, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la sécurité dans la ville, et quelles propositions, quelles améliorations souhaiteriez-vous y apporter?
La sécurité dans la ville, je crois qu'il y a d'un côté les chiffres, de l'autre côté la réalité. Faut savoir que par exemple quand vous voulez aller porter plainte au commissariat, c'est la croix et la bannière. J'en sais quelque chose avec les victimes des marchands de sommeil. On ne peut plus porter plainte au commissariat de Mantes-la-Jolie. On peut déposer...
Expliquez-nous ça.
Je ne sais pas, il y a des blocages. On peut déposer sur la main courante. C'est la croix et la bannière pour porter plainte. Il faut savoir, par exemple, que je vais revenir encore aux résidents de l'impasse Marceau. La mairie a fait enlever de force la grille avec leur boîte aux lettres. Ils sont venus porter plainte au commissariat, on leur a refusé le droit de porter plainte. Ils ont été obligés de passer par un avocat, de porter plainte directement auprès du tribunal. Ça vient directement des mesures Sarkozy du temps où il était ministre de l'Intérieur. Il faut du chiffre, il faut que la délinquance baisse. Donc on va maintenant avoir un certain nombre de bons points, voire de primes, en fonction des résultats officiels qu'on va obtenir. Donc on a de moins en moins intérêt à enregistrer les plaintes. Je voudrais dire aussi que la manière dont la politique de sécurité est envisagée à Mantes-la-Jolie est quelque chose de complètement absurde. Avec la prévention complètement oubliée, on a cassé la GJAM. Parce que visible.
On rappelle ce qu'était la GJAM.
La GJAM, c'était une association de prévention, d'insertion, qui employait un certain nombre d'éducateurs, qui faisaient un travail de, enfin, qui fait de toujours à Mantes-la-Ville et à Limay un travail de terrain important. On l'a cassé pour la remplacer par une association qui s'appelle l'IFEP. L'IFEP qui, alors, sous le principe, il faut qu'ils soient sur le terrain, donc ils n'ont plus de bureau, donc du coup, plus personne, ni les élus, ni personne ne peut contrôler, enfin, sans doute certains élus, mais personne ne peut contrôler son action. Et je veux dire, tout l'aspect prévention est enlevé. Je crois aussi, d'ailleurs, que si on veut avancer sur cette histoire de sécurité, on ne peut pas parler que de droit, que de devoir. Il faut aussi parler de droit. Les jeunes ont les citoyens ont des droits, il faut les respecter. Sans ça, on va aller vers des explosions plus ou moins régulières. Je crois aussi qu'il faut ouvrir l'avenir et se dire que demain, on peut faire autrement. Pour en revenir à la police municipale, c'est une vraie question qui se pose. Je crois que son action actuellement n'est pas, qu'on l'oriente pas forcément dans la bonne direction. Il n'est pas question pour nous d'arrêter la police municipale, mais on va réorienter son action en direction de la protection des enfants au sortir des écoles, la protection des bâtiments publics, etc. C'est-à-dire de continuer cette politique de main tendue.
Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève notre entretien. Monsieur Jamais, merci. Maintenant, place à la musique sur BPM. On se retrouve à 19h30 pour notre deuxième rendez-vous politique de la soirée, toujours avec monsieur Marc Jamais, mais cette fois-ci dans le cadre de sa candidature au poste de conseiller général. À tout de suite sur BPM.